Interview.
1 du jour.
Bonjour à toutes et à toutes, vous êtes bien sur RDWA 107.5 FM www.rdwa.fr. Aujourd'hui nous recevons Harold David qui va nous parler du spectacle de Bernard Pivot au Théâtre de Die, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est tout à fait ça, le spectacle qui s'appelle « Souvenir d'un gratteur de tête ».
Pour moi qui suis un peu jeune, qui ne connaît pas Bernard Pivot, et pour les auditeurs de mon âge ou de ma génération, qui est Bernard Pivot, tout simplement ?
Eh bien, Bernard Pivot, c'est d'abord un journaliste littéraire qui a vraiment marqué l'histoire de la littérature d'une certaine manière, mais surtout l'histoire du journalisme littéraire et notamment de la télévision littéraire, puisque en gros, de la fin des années 60 jusqu'aux années 2000, il a occupé une case assez unique dans l'histoire de la télévision française, où au travers de plusieurs émissions au titre assez emblématique comme « Fermer des guillemets » ou encore « Apostrophe » qui était peut-être la plus connue, puis ensuite « Bouillon de culture » par exemple, et bien pendant cette période assez longue, d'une trentaine d'années, Bernard Pivot a accueilli sur ses plateaux de télévision tous les écrivains vivants, français, étrangers, de l'après-guerre en fait. Certains qui étaient déjà des artistes de grande notoriété, et d'autres qui étaient émergents et qui allaient devenir les grands auteurs d'aujourd'hui reconnus, etc. Et donc il avait vraiment dans ses émissions un talent, on peut vraiment appeler cela, pour à la fois faire se rencontrer des artistes, des intellectuels reconnus avec d'autres qui étaient sur le point d'émerger, et à faire le lien entre ces générations, ces paroles et ces débats littéraire qui pouvait s'enclencher sur ces plateaux télé, avec le souci toujours, et c'est ça qui fait peut-être la spécificité, l'identité même de Bernard Pivot, une manière très, très personnelle, vraiment une façon de faire qui n'appartient qu'à lui, notamment de faire en sorte que la rencontre se fasse entre ses invités, mais surtout que ça passe auprès des auditeurs ou des téléspectateurs, et que ça leur donne envie de lire et d'acheter les livres. À tel point que, vraiment, pour un auteur, passer chez Pivot, c'était vraiment the place to be, quoi. Enfin, il fallait passer chez lui si on voulait avoir une quelconque visibilité dans le paysage littéraire français. C'était vraiment le gage que ça y était, on était rentré dans le cénacle, dans le cercle des auteurs repérés, en tout cas. Et ça avait déjà, c'était le pouvoir de la télé, des influences considérables sur les ventes de livres. Quoi. Un passage chez Pivot, ça pouvait faire lancer une carrière, ça pouvait lancer un livre, voire ça pouvait aussi le planter quand l'auteur faisait une prestation pas forcément emballante ou stimulante pour son futur lecteur. Donc voilà, Bernard Pivot, c'était cet amour de la littérature, cette passion du journalisme et de la transmission de la chose littéraire, et cette façon vraiment, vraiment, vraiment unique, vraiment inoubliable pour ceux qui l'ont vu à la télé, de donner envie de lire tout simplement. Quoi, voilà. Sans compter qu'il y a eu effectivement parmi ses invités des écrivains tout à fait étonnant, enfin qui pour certains, même beaucoup, sont décédés aujourd'hui, mais où du coup les émissions qu'il a enregistrées avec eux constituent des sortes de témoignages assez uniques de personnalités vraiment invraisemblables, et qu'on avait peu l'occasion de capter et de d'inscrire sur la pellicule, si je puis dire. Voilà, donc il y a des moments d'anthologie véritablement qui sont liés à ces émissions littéraires.
Il y aurait des exemples d'écrivains comme ça que tu pourrais
donner? Oui, il y aurait. Je sais pas si on prend l'écrivain français, sans doute le plus connu aujourd'hui au niveau international, qui est donc Marguerite Duras. Bon, bah, il a accueilli Duras à plusieurs reprises dans ses émissions, et enfin, faut revoir les émissions, les enregistrements d'apostrophe avec Duras, quoi. C'est absolument hallucinant ce qu'il arrive à lui faire dire des choses sur la littérature, sur sa vie, sur de manière extrêmement puissante, et le tout avec une sorte de comme ça de nonchalance, de détachement très 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 ludique en fait, qui mettait les auteurs aussi en confiance, et sans pour autant être du tout dans un rapport je dirais de révérencieux ou alors lécher les bottes, au contraire il secouait le cocotier. Moi j'aime toujours à citer cette phrase qu'il dit concernant son spectacle, où il dit la chose suivante: pendant 28 ans, chaque vendredi soir, comme le forain de mon adolescence, gratteur de tête dans le train fantôme, j'ai gratté la tête de millions de téléspectateurs pour leur donner envie de lire. En même temps, en direct, j'excitais la matière grise des écrivains afin qu'ils nous livrent le meilleur de leur intelligence et de leur sensibilité. Enfin, après avoir vu tous les livres et sans pour autant considérer que la chair est triste, je me grattais la tête, non de perplexité, mais de curiosité, de passion et de plaisir. Voilà, c'est lui qui parle ainsi de lui et de son parcours. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est un homme. C'est un. On a un mot, hein, pour traduire ce type d'homme. C'est celui d'épicurien, puisque au-delà d'aimer la langue et d'aimer les mots, d'aimer les écrivains, etc., c'est un grand, très grand amateur de bonne chère, de vin. Il a beaucoup écrit d'ailleurs lui-même des livres sur ces sujets-là, qui sont aussi ses sujets de prédilection. Donc c'est aussi quelqu'un qui écrit, hein, c'est pas seulement quelqu'un qui fait parler les autres de leur écriture. Et c'est quelqu'un qui est du côté effectivement du bon vivant, de l'intelligence, du savoir. Ça lui a d'ailleurs valu maintenant un certain nombre de reconnaissances honorifiques importantes, puisque il est désormais, je crois, président de l'Académie des Goncourt, donc du prix Goncourt, depuis 2004. En tout cas, il est rentré en 2004 dans cette institution, voilà. Il est aussi l'auteur de la fameuse dictée de Pivot, qui est devenue elle aussi une institution. Et pour revenir sur quelques moments d'anthologie de ces émissions, il faudrait aussi citer quelques émissions avec Jean d'Ormesson, avec Marguerite Yourcenar, Solzhenitsyn, Blondin. Je me souviens aussi, moi, d'une émission improbable avec un auteur américain complètement alcoolique qui s'appelle Charles Bukowski. Enfin, quand il recevait les écrivains de la Beat Generations, c'était hallucinant, enfin, parce que les mecs arrivaient complètement défoncés sur le plateau. Il y avait une ambiance très très libertaire en même temps, et qui était c'était pas le Wilde non plus, parce que il avait cette voilà, cette poigne pour tenir ses invités et en faire des moments de plaisir et de joie partagée. Et vraiment, si on repense à ce que j'ai lu tout à l'heure de ce qu'il dit de son travail, j'ai gratté la tête de millions de téléspectateurs, et puis pour leur donner envie de lire, voilà, je crois qu'il avait vraiment, il a toujours cette sorte de mission dont il se sent investi, qui est de lire et faire lire. Parce que aussi, quand même, ça on le dit trop peu, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas accueillir un écrivain sans avoir lu son œuvre. Maintenant, quand on voit la façon dont sont préparées les émissions, la façon dont sont traités les écrivains sur les plateaux de télé, etc., la plupart du temps, l'animateur a des fiches avec un résumé du bouquin et puis trois questions que son assistant lui a rédigées. Mais c'est vraiment très très rare qu'il ait lu l'œuvre en entier de l'auteur et qu'il puisse donc le faire parler en toute connaissance de cause. Mmh. Et ça, c'était aussi ce qui faisait que les auteurs lui étaient enfin, lui savait gré de ça, c'est-à-dire de ce respect de base qui est que quand on invite un écrivain, puis on l'est lu.
Un certain professionnalisme aussi, du coup, donc, de
oui,
fait.
Oui, bien
quoi.
Sûr, un certain professionnalisme qui s'est très, très nettement perdu. Si vraiment vous regardez les émissions littéraires aujourd'hui, combien d'émissions vous pouvez être certain que les chroniqueurs ou les animateurs principaux ont lu les livres. Il y en a très peu. D'ailleurs, quand c'est le cas, quand les livres des auteurs invités sont lus, c'est souvent qu'il y a un animateur et des chroniqueurs. Et c'est donc les chroniqueurs qui se répartissent la lecture. Mais c'est plus l'homme livre qu'a pu être Bernard Pivot, où il était tout seul, il n'avait pas de chroniqueur, et où il lisait effectivement tout de ses invités.
Dans sa manière de faire, s'il y a une chose que tu devrais parler de sa manière de faire dans ses émissions ou dans ses dictées ou autres, par exemple.
Ben, il savait, sur ses plateaux, en tout cas de télé, et je crois que c'est cette ambiance-là qu'on va retrouver dans le spectacle qu'il vient faire le 12 janvier au Théâtre de Die. Il savait faire en sorte que les invités oublient qu'ils étaient sur un plateau de télé et qu'il y avait potentiellement des millions de téléspectateurs qui pouvaient les voir et les écouter. Il avait une façon de créer un lien avec ses invités qui faisait qu'on avait l'impression d'être à la maison et que, enfin je dis ça, je n'ai jamais été sur un plateau de Bernard Pivot, mais je connais par contre des écrivains qui sont passés chez Pivot et qui tous m'ont témoigné de cette sensation-là de où ils se sentaient très libres. Finalement, il y avait un espace-temps où d'une part il y avait du temps et d'une part il y avait de l'espace, parce que là aussi ce qui a beaucoup changé dans le monde télé aujourd'hui, c'est qu'on ne donne plus vraiment du temps aux invités pour s'exprimer. Quand on interviewe quelqu'un sur un même quand on invite des écrivains, je sais pas, sur des plateaux type, je sais pas, On n'est pas couché ou des choses comme ça, des plateaux qui sont sur des émissions transversales en termes d'invités, où on met tout dans le même panier, si je peux dire, d'un politique, des artistes, des écrivains, etc. C'est bien plus souvent le chroniqueur ou l'animateur qui fait son show et qui fait les questions-réponses que cette façon, pour le coup, qu'avait Pivot, qui était de suggérer de la question, de l'orienter, d'amener l'auteur à dire des choses qu'il ne dirait pas ailleurs. Et je crois que c'est vraiment ça son talent aussi, c'est d'arriver à faire arracher d'une certaine manière des confidences aux invités. Parce que un écrivain, surtout maintenant, les écrivains ils sont briefés, ils sont coachés comme pour faire de la télé, enfin ceux qui vendent et qui donc ont besoin d'avoir une visibilité médiatique. Donc ils sont dans un discours qui bien souvent est formaté, qui bien souvent les protège aussi. Et lui, ben, il arrivait, parce qu'il y avait du temps, parce que c'était lui, à faire lâcher des choses que les écrivains ne disaient pas ailleurs, quoi, voilà. Et ça rendait ses émissions absolument uniques.
Et donc vraiment quelqu'un de très passionné, et en plus de ça un très bon très bon journaliste.
Et du coup, bah, c'est pas tellement étonnant qu'au soir de sa vie, puisqu'il est quand même plus tout jeune, il ait eu envie de continuer ce partage finalement avec le public et de continuer à se faire plaisir en faisant revivre par la mémoire, par le souvenir, justement des moments de cette vie télévisuelle qui lui a tellement apporté et qui a apporté à tellement de gens sur scène. Parce que je crois que la scène lui permet dans ce spectacle de retrouver finalement un esprit, voilà, qui s'est un petit peu perdu, et de pouvoir le réincarner sur scène, même de manière fictionnelle. Ça donne tout son sel, je crois, au spectacle qui va avoir lieu mardi 12 janvier, qui est un spectacle de théâtre-récit, c'est-à-dire que c'est Bernard Pivot qui parle, il n'est pas en train de créer un personnage de fiction, etc. C'est vraiment lui qui va parler à la première personne, qui va raconter des choses, partager des souvenirs, faire le récit de son parcours à lui aussi de journaliste, et donc d'une certaine manière son parcours de vie. Et avec tout ça, aussi, je crois, dire deux, trois choses sur le temps qui passe, sur l'âge, sur sur la tristesse, sur voilà, je vois dans le dossier de presse que vieillir c'est chiant. Voilà, sur son rapport à la mort, je crois aussi qu'il y a cette dimension-là qui est évoquée dans le spectacle. Et puis quoi dire aussi que à Pivot, je crois que c'est pour ça que les gens ont envie de venir le voir, c'est que grâce à lui, il a été le médium pour nous faire vivre des émotions qu'on n'aurait pas vécues. À la fois des émotions en écoutant son émission et dans la rencontre avec la parole des écrivains qu'il invitait, mais aussi et peut-être surtout des émotions de lecteur quand justement on découvrait un auteur à l'occasion d'une de ses émissions, que du coup on allait acheter le livre et on vivait une émotion littéraire forte parce que la dimension, enfin, il était prescripteur de manière extrêmement forte. Enfin, son émission avait une force de prescription très forte, c'est-à-dire que c'était, encore une fois, comme je disais, quand on passait chez Pivot, ça avait un réel effet sur les ventes du bouquin derrière. Quoi. Si on avait été un auteur à même de donner envie, voilà, et parce que lui il savait donner envie, et du coup, comme il avait le choix, il pouvait inviter à peu près que les gens qu'il avait envie, et pas forcément voilà, être dans la promo. Et donc, du coup, ça donnait un truc assez étonnant qui ne peut que rappeler à des gens qui ont vu ces émissions et qui ont acheté des livres après, eh bien, le chemin qui les a amenés jusqu'à cette parole d'auteur et donc à cette émotion littéraire.
Ça m'en fera presque regretter de ne pas avoir connu cette époque. Moi qui suis tout petit lecteur,
mais l'époque d'aujourd'hui est très bien faite puisque toute la mémoire du temps maintenant se trouve sur un truc qui s'appelle le net. Il y a effectivement énormément de... Enfin, il suffit de taper apostrophe, etc. Mm-hmm. Et sur le site de l'INA, il y a énormément de matériaux vidéo, enfin, d'émissions enregistrées qui sont disponibles et visibles et qui peuvent tout à fait donner une idée très concrète de comment ça se passe. Quel était l'esprit de ces émissions.
Donc du coup, tu disais le site, c'est sur le site de l'INA.
L'INA, oui, c'est INA.fr, c'est okay. Institut National des Archives, et notamment visuel et télévisuel. Et c'est en streaming libre, enfin on peut y accéder très, très facilement. Voilà, et ça permet effectivement de se rendre compte de ce que c'était, quoi, voilà. Et donc là, Bernard Pivot nous fait l'amitié de venir faire ce spectacle le 12 janvier. Il propose avant le spectacle qui lui est programmé à 20h, il y aura donc à 18h30 une rencontre signature avec ses ouvrages, donc dans l'entrée, en entrée libre et gratuite, pardon, dans le hall du théâtre de Die. Donc à partir de 18h30, il sera disponible pour échanger avec le public comme ça de manière informelle dans l'espace accueil-bar du théâtre et pour dédicacer ses ouvrages si certains souhaitent les acheter, puis boire un coup et voilà, parler du bon vieux temps de la télévision et de son âge d'or. Et puis ensuite, on enchaînera avec le spectacle à partir de 20h.
Rencontre à ne pas manquer.
Ouais, vraiment, c'est
pour tous ceux qui ont connu.
Un grand honneur, un grand privilège d'avoir cette figure, quand même, vraiment, une des figures intellectuelles françaises importantes, parce que je crois que c'est ça aussi qu'on pourrait rajouter pour conclure, c'est que il avait, grâce à ses émissions aussi, réussi à démocratiser l'accès à la littérature contemporaine, dans le sens où la façon dont il présentait les ouvrages faisait que, bien sûr, qu'on était face à des intellos, dans le sens où un écrivain, oui, est un intellectuel. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de sensibilité, mais voilà, l'intellect occupe une part importante. On crée de la pensée avec la littérature. Et lui, justement, ce qu'il arrivait aussi à faire, c'était de vulgariser, en quelque sorte, cette approche et de décloisonner les représentations voilà, symboliques. On se dit, lire, c'est pas pour moi, la littérature, c'est pour les bobos ou les intellos, et du coup on s'auto-censure de tout un accès à des émotions, parce que c'est ça qui compte au final, qui vont nous nourrir, qui vont nous rendre plus riches, plus denses. Donc voilà, et lui il avait cette capacité de désacraliser le rapport à l'écrivain et de faire en sorte qu'on puisse s'approprier plus facilement les œuvres des auteurs. Lisez, allez au théâtre, allez au cinéma, voilà, faites de la chose culturelle votre affaire et le centre de votre vie. Voilà, parce que c'est vraiment la concordance de toute cette nourriture intime, personnelle, intellectuelle qui fait qu'on, à mon avis, on regarde le monde un peu différemment et qu'on est un citoyen un peu plus éclairé, quoi. Voilà. Et par les temps qui courent, c'est bien qu'on soit nombreux à être éclairés.
Donc on reprécise rapidement, ça sera le mardi 12 janvier.
Ouais.
Bernard Pivot en spectacle au Théâtre de Die à 20h.
À 20h.
Voilà.
Et un rendez-vous donc pour le rencontrer avant à 18h30 dans le hall du théâtre.
Il y a d'autres choses à préciser rapidement?
Comme c'est ma première interview de l'année sur Erdivois, je vais juste dire que je présente tous mes meilleurs voeux à toute l'équipe d'Erdivois ainsi qu'à tous les auditeurs d'Erdivois, puisque bon, je sais pas si c'est moi qui fais le plus d'émissions dans l'année, mais j'ai l'impression d'être souvent dans cette maison avec bonheur hein, d'Erdivois, donc voilà, j'en profite.
Et on t'accueille avec autant de plaisir
Et
d'ailleurs.
ben, tant mieux. Et puis juste dire que ben, à la fin du mois, on va retrouver la Fabrique des Petites Utopies qui avait été en résidence l'an dernier pour une nouvelle résidence qui va présenter un spectacle de circonstances qui s'appelle Nous sommes tous des cas. Nous sommes tous des cas, c'est une adaptation du Château de Franz Kafka dans une version tout à fait particulière de bouffe, théâtre, masque, politique, cauchemardesque. Voilà, qui est extrêmement étonnante sur la problématique de l'étranger, de notre rapport à l'autre, de comment on fait une place dans son village à l'autre quand on doit accueillir un étranger. Enfin, deux, trois petites choses comme ça qui sont légèrement dans l'actualité du moment. Voilà, mais traité de manière théâtrale, c'est vraiment très très chouette. Et puis, dans tout autre registre, le 13 février, donc dans un petit mois, ce sera bien sûr la Winterbass Session, 4e édition, que nous avons le plaisir de mettre en œuvre le théâtre de Die avec Psycho by Dub. Et quand même un petit peu, voilà, parce que les équipes se recoupent, celle d'Erdivois pour faire la fête au dub pendant toute une grosse soirée, on va dire.
Je te souhaite une bonne journée et les meilleurs vœux, bonne année. Et on se revoit très bientôt. Rapidement, est-ce que tu peux nous redire un endroit ou un site pour les informations?
Alors, pour réserver par téléphone, parce que dépêchez-vous, pour le spectacle de Bernard Pivot, il reste vraiment plus beaucoup de place. Donc, c'est le 04 26 58 80 35. 04 26 58 80 35. Et sinon, donc, vous pouvez réserver vos places sur notre site internet. Il y a une billetterie en ligne possible, qui est donc le site www.theatre-de-die.com.
Ok, merci encore. Bonne journée à tous et à toutes sur RDWA 107.5.fm, www.rdwa.fr.
Ok, de bird. L'interview du jour. L'interview du jour.